Chers amis auditeurs et auditrices, bonjour. Vous êtes donc en direct sur Radio Courtoisie pour ce nouveau libre journal en partenariat avec l'ICEP, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques. Il suffit que vous alliez sur Internet pour prendre des nouvelles de l'ICEP et surtout pour savoir si vous êtes en âge de suivre des études à l'ICEP, des études de Sciences Po, s'il n'y a plus qu'une seule école de sciences politiques désormais en France, digne de ce nom, sans que vous soyez soit massacré sur un trottoir à coups de talons sur votre tempe ou bien empêché d'entrer dans votre établissement par des gens brandissant des drapeaux et palestiniens et islamo-iraniens, eh bien il n'y a plus qu'une seule école de sciences politiques qui est l'ICEP. Si vous voulez vraiment en savoir plus, allez sur le site de l'ICEP. Quelques nouvelles concernant l'enseignement, l'éducation, pour dire dans quel état nous continuons d'être et dans quel état nous nous enfonçons. Il y a eu un film présenté au Festival de Cannes consacré à ce professeur de l'enseignement secondaire, Samuel Paty, qui avait été assassiné, plus exactement décapité, il faut dire les choses comme elles sont, par un islamiste au cri de Allah ou Akbar, le ou étant le plus grand. Hein, c'est pas Dieu est grand, c'est pas Allah Akbar, c'est Allah ou Akbar. Voilà, c'est une petite leçon d'arabe pour nos auditeurs de Radio Courtoisie. Eh bien, vous savez, cette affaire de ce Samuel Paty qui avait été trahi par sa propre administration, elle n'est pas tellement nouvelle. On a les révélations d'un autre Samuel, Samuel Mayol, qui a été directeur d'une IUT à Saint-Denis, voilà, Institut Universitaire Technologique de Saint-Denis, et il explique avoir mis fin, à l'époque où il était directeur, à l'existence d'une salle de prière. Alors, rassurez-vous, c'était une salle de prière musulmane, bien sûr, hein, pas chrétienne, et à un système de vente de produits halal au sein de l'établissement. On était quand même dans un institut universitaire de technologie, mais on y vendait des produits halal, et on pouvait y faire sa prière pour Allah, en se tournant vers la Mecque. Alors, lui avait cru pouvoir de mettre fin à ces pratiques-là quand il était devenu directeur de cette IUT, parce qu'il avait cru pouvoir estimer ces pratiques contraires à la neutralité d'un bâtiment public et d'une université publique. Mais pourtant, cette décision lui avait valu une suspension de ses fonctions de la part de sa hiérarchie, des menaces évidemment, mais aussi une contestation de la part de sa hiérarchie qui allait jusqu'à nier la réalité des faits qu'il dénonçait, à nier l'existence de cette salle de prière islamique et de cette vente de produits halal. Bon, finalement, voilà, il a fini par se défendre, obtenir gain de cause devant les instances compétentes, mais on imagine le coût évidemment professionnel et personnel que tout ça lui a engendré. Voilà, si on peut dire que, vous voyez, Samuel Paty n'est certainement pas un cas isolé. Alors, heureusement pour lui, ce Samuel Mayol n'a pas été décapité, lui, pour le coup. Et comme il est plus, de toute façon, directeur d'un IUT à Saint-Denis, je suppose qu'il ne risque plus rien, surtout que maintenant, Saint-Denis s'est conquis, ça y est, l'affaire est entendue. Deuxième petite information, polémique, là aussi, bien sûr, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui recommande aux professeurs, aux correcteurs, et plus de sévérité dans l'orthographe des élèves. Alors, évidemment, ça fait un peu rire les vieux schnocks que nous sommes, parce que qui va s'occuper de corriger cette orthographe quand on sait très bien que les maîtres eux-mêmes n'ont plus d'orthographe? C'est pas parce que vous avez réussi votre CAPES de français que vous savez écrire sans faire des fautes d'orthographe. Nous sommes tous témoins, pour ceux qui ont enseigné dans le supérieur, de cette carence. Donc il y a une véritable crise de l'orthographe. Et donc je vois pas qui peut s'occuper de faire respecter l'orthographe par les élèves. Certainement pas les profs de la nouvelle génération, j'entends, et qui eux-mêmes, en général, n'ont pas d'orthographe. Bon. J'ai l'honneur, le plaisir et l'avantage de recevoir aujourd'hui le docteur Guillot, qui est un éminent scientifique, membre de l'Académie de médecine et qui est un spécialiste des cellules souches. Nous avons fait plusieurs émissions portant sur des questions éthiques. L'émission du mois dernier portait sur l'accueil d'un enfant handicapé par ses parents. Et puis celle d'avant portait aussi sur des questions morales portant sur ce qu'on appelle pudiquement la fin de vie. Et ça, c'est très la fin de vie. Ça, c'est le régime. C'est très bien trouver des expressions comme ça, des euphémismes. Et donc, nous consacrons une troisième émission portant sur un phénomène qui effectivement interroge notre réflexion morale, c'est celui des cellules souches. Le docteur Guillot est un spécialiste des cellules souches. Alors avant de en dire plus, évidemment, je vais poser une première question qui est tout simplement la question de l'ignare que je suis et que la plupart de nos auditeurs en ce moment sont également. Cher docteur, bienvenue d'abord. Docteur Guillot, qu'est-ce qu'une cellule souche ?
Merci, M. Aglin, pour votre invitation. En fait, on décrit plusieurs types de cellules souches. Le terme de cellule souche indique simplement que c'est une cellule qui a des propriétés importantes, deux qui sont majeures. La première, c'est de pouvoir s'auto-renouveler, de croître spontanément. Et la deuxième, de se différencier en différents types cellulaires. C'est pour ça, évidemment, que l'être humain est composé de différents organes. C'est justement parce qu'au départ, il y a des cellules souches embryonnaires capable de donner trois types de feuillets qui vont, en se différenciant et en se multipliant, donner tout l'organisme. Alors ça, c'est pour les cellules souches embryonnaires. La deuxième grande catégorie, ce sont les cellules souches dites hématopoïétiques. Alors c'est mon domaine, puisque j'ai fait de la transplantation de moelle quand j'étais en poste dans les hôpitaux universitaires. Et ces fameuses cellules souches, elles se situent dans la moelle osseuse, et elles ont cette capacité, d'où le terme de cellules souches hématopoïétiques, de se multiplier et de se différencier de nouveau en différents types de tissus. Comme je l'ai dit pour les cellules souches embryonnaires, ces fameuses cellules souches au niveau de la moelle osseuse que nous avons dans nos os sont capables de donner ce que vous connaissez. C'est votre sang avec les plaquettes, les globules rouges et les globules blancs, dont là encore, une capacité de différenciation. Il y a un troisième type de cellules souches un peu particulières, alors on va les appeler les cellules induites. Alors ça, c'est le prix Nobel japonais qui a décrit cela. C'est tout à fait étonnant. On est capable de prendre, par exemple, une cellule de votre peau et en la traficotant avec des gènes, on est capable de lui donner une capacité de pluripotence, ce terme de pluripotence qui désigne donc les cellules souches, et elle est capable, cette cellule, de redonner là aussi différents types de tissus. Alors, ces cellules dans l'organisme humain sont évidemment très importantes parce qu'elles sont à l'origine de notre corps, de nos organes, et bien entendu, cette puissance de différenciation et de multiplication a été pour le corps médical et les scientifiques d'un intérêt majeur.
Donc vous voulez dire que la même cellule souche serait comme le tronc d'un arbre, c'est-à-dire qu'il y a le tronc puis il y a les branches, et en fait les branches partent de cellules souches qui sont communes au début, il y a la même cellule souche pour tous les organes du corps humain.
Tout à fait, la cellule souche embryonnaire a cette capacité exceptionnelle d'avoir un patrimoine génétique d'une puissance exceptionnelle. Elle est, si on reprend une vision thomiste de la question, c'est de l'être en puissance.
Oui, aristotélicien
d'abord et thomiste après.
Mais c'est ça, bien sûr.
Et donc, c'est une concentration de données génétiques qui va avoir cette capacité à effectivement donner différents types de tissus.
Pour la culture générale des uns et des autres, et notamment la mienne, Quand est-ce qu'on a découvert ça dans notre science?
Alors, les choses sont venues petit à petit. C'est le prix Nobel du Japon, dont je parlais tout à l'heure, pour les cellules induites. Les cellules souches hématopoïétiques, ça remonte à des travaux des années 95-98.
Hier, quoi.
On a réussi à mieux comprendre comment ça fonctionnait. Mais on a su assez vite que ces cellules, et alors c'était surtout le cas des cellules hématopoïétiques, c'est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale que la question s'est posée de traiter les soldats irradiés qui avaient leur moelle osseuse complètement détruite et qui mouraient d'infections et d'hémorragie.
Par Hiroshima et Nagasaki. Quand vous dites irradié, c'est...
Alors, effectivement, c'était lié à cet événement guerrier. Et les Américains, à cette époque, se sont dit, mais comment est-ce qu'on pourrait sauver nos soldats américains?
Ah oui, avec les atolls de Bikini, enfin les expérimentations, sans aucune précaution.
Oui, alors c'était surtout les événements post-Nagasaki et Hiroshima qui ont incité un programme américain à se développer, et à dire comment est-ce qu'on peut reconstituer le sang. Et donc, c'est à ce moment-là que, sur la côte ouest des États-Unis, Donald Thomas et son équipe, qui a eu le prix Nobel, a commencé par des travaux sur le chien et a été capable, donc dans les années 70, de montrer qu'on pouvait éventuellement restituer la moelle osseuse par transplantation. Or, les premiers cas greffés, ça ne s'est pas évidemment très bien passé parce qu'on ne savait pas trop faire. Et petit à petit, les choses se sont développées. Et on peut dire qu'à partir des années 80, dans tous les pays développés, on a utilisé les transplantations de cellules souches hématopoïétiques pour traiter des patients qui avaient une destruction de leur moelle osseuse. Alors, évidemment, pas dû à l'irradiation, puisqu'il n'y a eu qu'un événement atomique, mais la moelle peut être détruite par une infection virale ou être agressée par des cellules cancéreuses. Et on a compris à ce moment-là qu'on était capable de traiter ces maladies de la moelle osseuse par de la greffe.
Donc, il s'agit de cancer du sang, c'est
oui.
Ça, ce qu'on appelle le...
Leucémie.
La leucémie, c'est ça.
Et si, aplasie médulaire, ce dont je parlais, c'était destruction de la moelle osseuse par des virus. Hein.
Ouais.
Il n'y a pas que le cancer qui peut détruire votre moelle, des virus peuvent le faire.
D'accord, donc les soldats qui ont assisté, aux premières expérimentations nucléaires, après la guerre, sur l'atoll de Bikini, des choses comme ça, et tout le monde arrivait sur place, à l'endroit de l'explosion, sans aucune prudence, et en dépit du fait que le compteur Geiger vibrait de toutes ses forces, ces gens-là, ils ont été contaminés, ils ont été irradiés, pardon. Et donc, on a essayé de trouver une réponse. Finalement, on l'a trouvé vers 1980, donc ils étaient déjà morts, les malheureux.
Alors, dans les années, les premières transplantations de Donald Thomas, c'est les années 70. Hein.
Ouais.
Il me semble que le premier papier dans le New England, c'est dans les années 72-73. Et petit à petit, ça s'est développé. On s'est aperçu que... Pour guérir ces gens qui avaient été irradiés, dont la moelle était détruite, on s'est aperçu qu'il fallait préparer ces patients d'une certaine façon pour les rendre un peu immunocompétents, qu'on n'ait pas le risque d'un rejet. Donc il y a toute une stratégie de recherche autour de la greffe de moelle osseuse qui s'est développée.
Donc là encore...
C'est ce que j'ai appris quand j'étais à Paris, aux États-Unis.
Ouais. Là encore, c'est comme en philosophie, l'antithèse précède la thèse. C'est-à-dire, les dégâts provoqués par nos progrès techniques qui ont poussé les chercheurs à trouver une parade, une solution, en tout cas chercher une solution pour guérir les personnes. Il dit qu'il fallait pas dire irradiées, non pas contaminées, mais irradiées. Parce que dans le sens médical, évidemment, ça prend un sens très particulier. Donc ça, c'est des cellules souches, c'est donc
de la moelle.
De la moelle.
Osseuse,
mais, oui.
Pas épinière. Hein.
Alors voilà, mais moi j'avais posé une question sur les cellules souches embryonnaires, c'est pas les mêmes.
Non, c'est pas le même type de cellule. La cellule souche embryonnaire, c'est la cellule que l'on observe après fécondation de l'œuf qui descend donc dans la trompe et qui va se nider. Cette nidation à l'intérieur de l'utérus vers le cinquième, sixième jour va être donc ce blastocyste au départ. J'ai fait de 4 cellules, puis ensuite petit à petit ça se multiplie et donc on a ce paquet de cellules qui arrive, qui sort de la trompe et qui descend dans l'utérus, qui va se nicher dans la muqueuse utérine. Et c'est à partir de cette nidation que le petit homme va se développer. Avec les trois grands... alors c'est le développement, c'est ce qu'on appelle l'embryogenèse qui dure 28 jours, avec la mise en place des trois feuillets, l'endoderme, l'ectoderme et le mésoderme, qui vont donner tous vos organes, hein, votre foie, vos poumons, etc. Et donc c'est ces cellules souches embryonnaires qui sont donc, qui ont cette puissance de division, d'expansion exceptionnelle et de différenciation, le deuxième mot important, qui donne les trois grands feuillets dont je viens de vous parler. C'est deuxième type de cellules souches embryonnaires.
Ouais. Donc c'est fascinant parce que, si j'ai bien compris, les souches hématopoïétiques, elles sont postérieures aux souches embryonnaires alors ?
Alors, en quelque sorte, elles vont effectivement se développer de façon postérieure aux cellules souches embryonnaires, mais on les appelle cellules souches pour la bonne et simple raison, comme je vous l'ai décrit, c'est qu'elles ont cette capacité de multiplication exceptionnelle au niveau de votre moelle osseuse et de différenciation en donnant les trois types de cellules qui circulent dans votre sang, monsieur Adeline. Les globules rouges, les plaquettes et les globules blancs proviennent bien de ces fameuses cellules souches hématopoïétiques et la terminologie cellules souches est parfaitement conforme.
Elle est conforme, oui. Même si ce sont des cellules souches postérieures aux cellules souches embryonnaires.
Absolument.
Et donc, quand vous parlez des cellules lymphocytaires génétiquement transformées, alors là, on arrive à des, comment dirais-je, un virage scientifique stressant. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire de ces cellules lymphocytaires génétiquement transformées ? D'abord, transformées par qui ? Non, par l'organisme lui-même ou non, c'est nous qui agissons ?
Alors, là, on aborde tout le sujet, effectivement, de la thérapie génique, parce qu'on est capable de transformer les cellules lymphocytaires, vos propres lymphocytes qui circulent dans votre sang, effectivement, mais on est aussi capable de transformer génétiquement les cellules hématopoïétiques pour traiter ce qu'on appelle la thérapie génique. On pourra le développer si vous le souhaitez. Alors, ces fameuses cellules lymphocytaires dont vous parlez, c'est un sujet qui me mobilise beaucoup. Ces fameux lymphocytes, ces globules blancs qui circulent dans votre sang, on est capable de les prélever et de les modifier génétiquement pour leur donner une fonction de destruction contre des cellules cancéreuses qui pourraient être dans votre organisme. Et comme ce sont vos propres cellules, monsieur Adeline, vous n'allez pas les rejeter parce que vous allez les reconnaître. Donc d'accord. On les prend, on les met au laboratoire, on les manipule génétiquement, on leur donne une fonction de destruction, et deux ou trois semaines plus tard, on vous les perfuse par voie veineuse, et ces cellules vont circuler dans votre organisme, reconnaître les mauvaises cellules cancéreuses contre lesquelles on a éduqué vos lymphocytes pour les détruire. Alors cette technologie, ce qu'on appelle les cellules CAR-T, j'ai beaucoup publié récemment à ce sujet, ce sont des cellules qui actuellement nous font rentrer dans une médecine totalement extraordinaire, exceptionnelle. Ça se développe énormément. On traite de plus en plus de patients avec ce type de médicaments. C'est la cellule médicament. Hein. On avait parlé de cela avant que je vienne ici, la cellule médicament. Et c'est un sujet qui me mobilise beaucoup parce que ça coûte très cher.
Ouais. Mais seulement parce que ça coûte très cher ou...
Alors, pour ce qui me concerne, il se trouve que j'ai été amené à pas mal discuter de cela à plusieurs reprises. J'ai été auditionné à la Cour des comptes pour cela. Il se trouve que ce type de manipulation génétique des lymphocytes, ça coûte au bas mot entre 250 et 350 000 euros la perfusion. une perfusion.
Incroyable, ouais.
Et comme le traitement nécessite de vous mettre dans une chambre avec des précautions, le montant global du soin, c'est aux alentours de 400 à 450 000 euros.
C'est incroyable.
Et on en fait 1700 actuellement par an en France. Donc faites votre multiplication, ça représente à peu près 1 milliard de dépenses annuelles avec un seul traitement. Or, il se trouve, on en reparlera peut-être ultérieurement si vous voulez que je développe cela, mais que nous aurions les capacités en France de fabriquer modifications génétiques des lymphocytes. Et pour l'instant, on ne fait qu'importer de l'étranger cette technologie.
Et donc, on s'assied sur notre propre compétence, qui est pourtant réelle.
Alors, on a effectivement la compétence en France on a les possibilités. Il y a au moins 4 plateformes en France qui ont les possibilités technologiques à Besançon, à Marseille, à l'hôpital Saint-Louis, à Lille, avec des chercheurs qui ont les moyens pour faire cette transformation des lymphocytes T. Mais pour l'instant, il n'y a pas, sauf pour Lille qui a eu l'autorisation pour un type de cellule, on n'a pas l'autorisation ailleurs de les fabriquer. Ce qui fait que ça nous coûte très cher, si vous voulez. Par exemple, au Canada, aux Pays-Bas, en Espagne, à Barcelone. Et récemment, un de mes amis qui travaille à Beyrouth, Ali Bazarbashi, a commencé ça. Si on les fabrique avec donc une plateforme universitaire publique, ça coûte 80 000 euros à la place de 250 ou 350 000. Ouais.
Mais le milliard que vous réclamez, on peut peut-être...
Ah, je ne le réclame pas.
Le soustraire à l'audiovisuel public. On va demander aux députés, à l'oncle. Parce que là, il y a beaucoup de gaspillage, donc on peut... Moi, je ne veux pas vous mettre en difficulté, vous êtes académicien, je ne veux pas qu'il y ait des piquets de protestataires à l'entrée de l'académie quand vous allez y rentrer la prochaine fois. Donc, c'est très coûteux. Est-ce qu'on peut imaginer que...
Monsieur Aline, oui. Ce sujet, il est très très connu. J'ai publié un article à ce sujet. C'est public. Si on clique mon nom sur Google, on va trouver mes écrits. J'ai expliqué à la Cour des comptes, à Monsieur Moscovici, ce qu'il fallait faire il y a un an et demi. Ils ont fait un rapport qui est en fait un coupé-collé de mon rapport à moi. Et il ne s'est rien passé. Je pense qu'il faudra peut-être attendre une forte volonté politique pour revoir toute une stratégie qui va au-delà des quarticelles. C'est comment retrouver une souveraineté nationale pour la fabrication d'un certain nombre de médicaments anticancéreux qui coûtent très cher. Vous le savez, il y a 50 ou 60 ans, en France, 80% de nos médicaments, nous les fabriquons nous-mêmes.
Oui.
Aujourd'hui, c'est 15 à 18%.
Oui. Et justement, j'ai une question à vous poser là-dessus. Il y a un organisme dont on n'entend plus du tout parler, alors qu'il a été probablement le plus célèbre du monde, qui était l'Institut Pasteur. Et il y a d'abord eu, il y a en plus de ça, eu des recherches sur le sang, l'Institut Pasteur. Comment expliquez-vous que, je sais pas, à l'époque, par exemple, du coronavirus, on n'entendait jamais plus parler de l'Institut Pasteur? Est-ce que la recherche française a été sabordée au profit de laboratoires étrangers dans une dynamique politique qu'il conviendrait d'approfondir de la part de nos gouvernants? Comment est-ce que tout ça s'est cassé la figure?
Alors là, on rentre dans un domaine qui est un petit peu politique.
Oui, oui, oui. Alors, je ne voudrais pas vous gêner encore une fois.
Vous ne me gênez pas du tout. Je ne pense pas. C'est une réalité. Il y a un certain nombre de cerveaux qui nous ont quittés. Il y a un certain nombre de cerveaux qui nous ont quittés. Et si on revient sur les quarticelles, il se trouve que j'avais organisé un colloque, un symposium à l'Institut Pasteur, je crois qu'il y a une quinzaine d'années, où j'avais invité Michel Sadelin, un immunologiste très remarquable qui, à l'époque, expliquait ce qu'on pouvait faire en termes de fabrication, une modification des cellules lymphocytaires. Et le gouvernement n'a pas suivi. Et Michel est allé à New York, a monté son entreprise et nous vend maintenant les quarticelles de 150 000 dollars.
Oh là là.
Et il n'est pas le seul dans cette situation. Nous avons auditionné l'entreprise Selectis, il y a, je crois, 3-4 ans, qui expliquait que Il maîtrisait les techniques et il s'était tourné vers l'ANSM, l'organisme français qui donne l'autorisation pour se lancer dans la fabrication et la diffusion de médicaments. Et l'agence a pas réagi, n'a pas répondu positivement. Il y avait, et il y a toujours, une certaine frilosité avec un certain nombre de questionnements que des gens dans des bureaux se posent. Oui, parce qu'effectivement, on utilise des lentivirus, on fait une manipulation génétique, et ça peut faire peur. Alors, moyennant quoi, l'entreprise Selectis, qui est une entreprise française tout à fait remarquable, allez, ben, tu sais, comme ça, c'est sur la côte des États-Unis, sur la côte Est, ils ont monté leur business et ils ont commencé leurs essais thérapeutiques sous l'égide de la Food and Drug Administration. Vous savez, aux États-Unis, la FDA, quand vous avez un nouveau produit d'intérêt, ils vont vous accompagner. Ils vont mettre avec vous tout de suite un spécialiste, un scientifique qui va accompagner le dossier jusqu'à l'enregistrement complet et la mise sur le marché. Et cette fluidité de fonctionnement aux États-Unis, nous ne l'avons pas.
Alors, est-ce qu'on a raison de ne pas l'avoir parce que on ne s'embarque pas dans des histoires qui peuvent déraper complètement? Où est-ce qu'on a tort et que tout ça, ce sont les lourdeurs de l'administration, pour ne pas parler d'éventuelle corruption, mais selon vous.
Mais il faut de l'audace. Mmh. Et on manque d'audace. On manque aussi peut-être de fluidité entre le monde universitaire et donc le monde académique et l'industrie. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Alors, quand vous avez des laboratoires de recherche qui ont fait dans l'innovation, ont abouti à un résultat intéressant. Assez rapidement, il va y avoir une fluidité entre le monde académique et le monde industriel, de façon à ce que l'innovation puisse arriver sur le marché. En France, on cherche à faire ça. Il y a un organisme qui est INSERM Transfert, qui est une partie de l'INSERM, et qui cherche effectivement à faire en sorte d'accompagner le monde académique pour arriver jusqu'à la production et la diffusion de produits. Mais ça manque d'envergure, indiscutablement.
Oui, donc il y a des lenteurs. Écoutez, je propose qu'on fasse une petite pause, qu'on se passe un peu de musique et on va aborder une question importante, évidemment. C'est la question éthique soulevée par notre expertise en la matière. Docteur Guillot, donc nous en étions à ce problème des lourdeurs administratives, la bureaucratie, somme toute, au sein de notre appareil scientifique. Et c'est très dommage parce que on s'aperçoit qu'il y a une vraie compétence en France. Il y a des gens très compétents, très savants, qui n'ont rien à envier aux grandes nations qui sont à la tête, disons, des sciences contemporaines. Mais il y a ces espèces de lourdeurs, il y a ces, je sais pas, on peut dire les 8000 fonctionnaires du CNRS, il y a toutes ces machines extrêmement lourdes qui empêchent cette fluidité dont vous parliez tout à l'heure. Mais je voulais qu'on aborde des questions évidemment nécessairement soulevées, disons au plan de l'éthique, puisque ces cellules souches embryonnaires qui sont un peu les mères des cellules souches, si on revient à nos tentatives de définition de la première partie de cette émission, ces cellules souches, on peut les manipuler dans tous les sens et parfois avec de mauvaises intentions. Non, quels sont les sujets éthiques qui sont posés par cette manipulation des cellules souches, manipulation génétique, comme on dit?
Alors, pour ce qui concerne les cellules souches embryonnaires, c'est un sujet. Pour le reste des cellules souches, comme les cellules souches hématopoïétiques, les utiliser en termes de transplantation ne pose pas de question éthique.
Bien sûr.
C'est le don de soi. Lorsque les gens, même à l'intérieur d'une famille ou à l'extérieur des familles, ont à peu près sur la France, il y a 350 000 volontaires pour donner leur moelle, c'est formidable.
Oui, c'est comme une transfusion sanguine, c'est
tout à fait
la charité, ça.
Seul d'autant plus qu'on n'est plus maintenant, on n'a plus besoin de ponctionner l'os pour retirer les cellules souches, on est capable, alors ça c'est assez amusant, on est capable de les mobiliser, on peut faire sortir les moelles, les cellules de la moelle osseuse dans votre sang, et on vous met sur un grand fauteuil pendant 2 à 3 heures, vous regardez un film, et votre sang passe dans une machine et on récupère les cellules souches de la moelle osseuse qui sont passées dans le sang. On met ça dans un petit sachet et après on peut l'utiliser. Donc il y a, à travers cette aventure de la transplantation des cellules souches hématopoïétiques, une histoire humaine de don de soi qui ne pose pas de problème. Là où on peut se poser des questions, c'est les cellules souches embryonnaires.
Ouais,
parce que,
oui.
Évidemment, il y a eu une fécondation, et donc, entre le 7e et 8e jour, on va extraire ce paquet de cellules et essayer de l'utiliser pour traiter des maladies. Alors, évidemment, on se dit, mais si on utilise ces cellules, on empêche le développement d'un être humain. Et toute la question se pose, c'est le regard qu'on a vis-à-vis de ces cellules. Est-ce que ce sont des cellules humaines? Et est-ce que ce sont en plus un être humain en puissance, en développement? Est-ce que, éthiquement parlant, on peut s'en servir? Alors, les directives papales sont très claires à ce sujet. Ce sont des cellules humaines et il n'est pas autorisé de les utiliser pour des raisons scientifiques et des raisons thérapeutiques.
Alors, excusez-moi, je vous interromps. C'est-à-dire, comment ça, il n'est pas autorisé de les utiliser? C'est-à-dire qu'on les prélève sur un fœtus, par exemple?
Alors non, le fœtus, c'est après 28 jours.
Après, d'accord.
C'est la période très initiale de la fécondation. Qui est cette période qu'on appelle l'embryogenèse.
Oui.
Le terme décrit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire cette période où vont apparaître les trois types de feuillets, l'endoderme, l'exoderme et le mésoderme, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure.
Oui.
Et donc, c'est ce paquet de cellules qui a une capacité de régénération et de multiplication qui peut avoir un intérêt scientifique. L'intérêt scientifique, il est qu'on peut générer des lignées de cellules souches embryonnaires à partir de sujets qui ont une maladie pour analyser ce qui se passe et éventuellement avoir des détails plus précis sur une maladie. Pendant un temps, on a cru qu'on pouvait les utiliser pour tester des médicaments. En fait, c'est pas vraiment très, très efficace. Et la question s'est posée, bien évidemment, est-ce que ces cellules souches embryonnaires, compte tenu du fait de leur puissance de multiplication et de donner 3 feuillets, est-ce qu'on peut les utiliser pour traiter un sujet malade, de prélever ces cellules et les utiliser pour une thérapeutique. Alors, c'est ce que j'ai décrit dans un papier que j'ai fait il y a quelques temps, où, en fait, les résultats ne sont pas satisfaisants. Mais on pourrait, sur le plan éthique, puisqu'on va revenir à l'éthique, s'il s'agit, si ce paquet de cellules qui est donc inséré dans la muqueuse utérine, qui a réalisé sa nidation, qui a cette potentialité importante de donner donc un être humain, est-ce qu'on est autorisé de le détruire ou de l'utiliser autrement?
Voilà,
là,
c'est ça.
On arrive à ce sujet important. Est-ce qu'on est autorisé de le faire? Alors, moi, je serais tenté de dire que, imaginons que ces cellules puissent avoir, qu'on puisse faire de la fécondation donc au laboratoire, de créer ces cellules embryonnaires, de les analyser et de se dire « Ah bon, on va pouvoir les utiliser pour éventuellement faire une thérapeutique ». Si la thérapeutique était efficace, on pourrait se dire « Pourquoi pas ?» Mais néanmoins, c'est aujourd'hui...
Et n'empêche que vous touchez à un embryon humain.
Ah oui, donc ce qu'on peut considérer comme un être humain qu'il faut protéger.
Ce qui explique donc la position pontificale.
Tout à fait.
Car en fait, quand vous parlez de prélever ces cellules, vous les prélevez en décrochant...
Alors non, en général, les cellules qu'on utilise, les cellules embryonnaires, ce sont des cellules qui sont issues d'une fécondation in vitro. Hein. On ne va pas aller curter la muqueuse utérine
voilà,
pour tirer des cellules.
Ouais. Donc en fait, en amont de ce problème-là, il y a la FIV, la fécondation in vitro. Mmh. On crée en fait un embryon humain pour s'en servir à des fins thérapeutiques. Mmh. À des fins médicales, c'est comme ça que ça se passe. Pour les ignares que nous sommes, moi-même et nos auditeurs, c'est intéressant de voir les choses comme ça, c'est beaucoup plus simple. En réalité, pour exploiter ces cellules souches embryonnaires à des fins thérapeutiques, il faut créer, par fécondation in vitro, on est bien d'accord, il faut créer cette cellule souche. Et cette cellule embryonnaire, donc on favorise la rencontre entre un spermatozoïde et une ovule, c'est ça ? Mmh. Et un ovule, c'est un, je crois que c'est le masculin, un ovule. Et à partir de là, on a fabriqué un petit être en puissance, un petit homme en puissance. Et en fait, on se sert de lui pour soigner des patients qui porteraient...
Alors, pour essayer de soigner... Parce que c'est ce que j'ai décrit.
Oui, en fait, vous dites que ça ne marche pas, en fait.
Alors, jusqu'à présent, non. En fait, si on analyse bien le sujet, il y a l'idée qu'on peut se faire que ce tas de cellules, étant un être en puissance, on n'a pas le droit de le détruire ni s'en servir.
Bon, voilà.
Mais d'un autre côté, on pourrait se dire, si éventuellement ce tas de cellules... permettait de soigner de façon efficace des maladies, se poserait effectivement la question de les utiliser. Parce que, alors, ce n'est pas le don de soi, mais en quelque sorte, ça serait le don de soi à travers un homme et une femme qui accepteraient effectivement que leurs cellules servent à un moment donné à des cellules la fabrication de cellules embryonnaires pour traiter. C'est une situation qui serait importante d'étudier, mais en fait, au jour d'aujourd'hui, le problème, c'est que ça ne marche pas. Si vous regardez la totalité des essais qui ont été faits pour essayer de traiter des maladies avec ces cellules souches embryonnaires, ça ne fonctionne pas. Il y a eu un essai en France pour le traitement de 6 patients atteints d'insuffisance cardiaque. À aucun moment, on a observé une réelle amélioration du fonctionnement cardiovasculaire. C'est la raison pour laquelle... dans l'hypothèse où on pourrait soigner néanmoins avec des cellules qui ont des propriétés embryonnaires, on se lance de plus en plus dans une technique des IPS, ces fameuses cellules dont je vous ai parlé au début de l'entretien, des cellules induites, c'est-à-dire qu'on prend votre peau, on manipule les cellules de votre peau en y introduisant plusieurs gènes et on transforme la cellule de votre peau en une cellule souche de capacité embryonnaire.
Alors ça, ce serait moralement acceptable.
Ça l'est.
Oui, ça l'est moralement acceptable.
Ça l'est.
Ce qui pose un problème éthique, évidemment, c'est de fabriquer un embryon, enfin une cellule souche en tout cas, puisque ça doit donner, on revient à Aristote, repris par saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire, bien sûr, cette
puissance de l'être.
Cette puissance. Mmh. Et en fait, on joue là, on joue à l'apprenti sorcier, et plus que ça, en fait, on brise un tabou portant sur la vie humaine, l'individu, etc. Cela dit, dans notre société, où en sommes-nous dans l'état légal, puisque cet embryon, de toute façon, n'est pas reconnu comme une personne humaine par la République. Donc ça devrait poser aucun problème à la République.
Mais c'est justement un sujet, on peut pousser le raisonnement assez loin. Si on estime que, effectivement, c'est un paquet de cellules humaines, hein, même la République est d'accord là-dessus, mais que ce n'est pas une personne pour la République, à ce moment-là, dans l'hypothèse où on veut soigner, on pourrait se dire, finalement, il y a un côté altruiste à faire en sorte qu'un homme et une femme acceptent que leur gamète, puisque c'est de ça dont il s'agit, arrive à la production d'un embryon et que cet embryon soigne. Finalement, c'est le don de soi, quelque part, par l'intermédiaire.
C'est le don de quelqu'un d'autre.
Mais oui, mais c'est, on peut dire par l'intermédiaire de...
Ouais, ouais.
J'essaye de pousser le raisonnement
oui,
le plus impossible.
Hein. Ouais.
et de dire, ben, finalement, est-ce que c'est différent du don d'organes, de reins, de foie, de cœur, de moelle osseuse, et qu'il y a un projet, finalement, parental, entre guillemets, qui permettent d'aboutir à un embryon qui soigne vraiment. Alors, ça questionne, hein, évidemment, sur le plan éthique. On est bien d'accord entre nous, mais ça pourrait peut-être inciter, si jamais ça fonctionnait, à aller dans le sens de l'utilisation de ce type de cellules pour soigner. Au jour d'aujourd'hui, le soin par l'intermédiaire des cellules souches embryonnaires, qu'on soit bien clair, j'ai bien analysé la littérature, je me suis bien penché sur le sujet, ça ne fonctionne pas. A contrario, pour essayer d'avancer dans le domaine, on s'est lancé dans les fameuses IPS, ces fameuses cellules induites dont je vous ai parlé tout à l'heure.
D'accord.
Et là, il y a des travaux au Japon, en Corée du Sud, en Australie. Il y a une grosse entreprise qui s'est lancée là-dedans. Et on peut espérer que ça aboutisse à de bons résultats, ce qui n'est pas tout à fait le cas non plus.
Les Australiens, dans ce domaine, ont tendance à jouer avec le feu. Enfin, ce sont des australopithèques, avec toutes ces questions éthiques là, sur les manipulations génétiques, etc. Mais alors, quittons le problème éthique, pour le coup, il est essentiel, de mon point de vue, et du vôtre, je suppose, mais techniquement, ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas, à votre avis?
Alors, c'est une bonne question. j'ai regardé les différentes techniques qui avaient été utilisées. Je pense que, par exemple, la technique pour l'insuffisance cardiaque, la technique a consisté à mettre un patch de ces fameuses cellules embryonnaires après ouverture du péricarde, posée sur le myocarde. Je pense que la raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est que ces cellules ne sont pas dans un bon environnement pour se développer convenablement et acquérir des fonctionnalités réparatrices des cellules.
Vous voulez dire qu'il faut une maman, alors, pour que ces cellules se sentent bien?
Peut-être.
C'est ça, c'est terrible,
ça.
C'est terrible.
Terrible. Et dans les différentes... utilisations qui ont été faites pour essayer de soigner la maladie de Parkinson au niveau neuronal. Parce qu'il y a eu beaucoup d'espoir concernant le système nerveux. Par exemple, les gens qui ont eu une fracture de la colonne vertébrale et qui se retrouvent paralysés, paraplégiques. Mmh. Ah, est-ce qu'on peut réparer le système nerveux? Est-ce qu'on peut reconstituer des cellules neuronale, et donc il y a eu beaucoup d'espoir autour de l'utilisation des cellules souches embryonnaires, et ça ne marche pas. Les résultats n'ont pas abouti.
Alors pour la morale, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais vous pouvez remplacer ça par vos autres cellules souches...
Les IPS.
Les IPS. Mmh. Et là, pour l'instant, on n'en est que balbutiement.
Oui, alors Ce qui est assez étonnant, c'est que on essaye de développer des techniques médicales qui sont quelquefois rattrapées par la connaissance précise qu'on a des maladies.
Alors, vous allez nous exposer ça, mais il faut d'abord passer le bobino.
Nous restons fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement. Pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Alors ces solutions, enfin cette nouvelle piste-là qu'on peut explorer sur les IPS, qui sont, rappelons-le, parce que là on est presque, c'est mon côté ancien prof, mais de faire c'est presque un cours, hein, parce qu'il faut que nos auditeurs nous comprennent bien. Les IPS sont des cellules souches, mais qui ne sont plus les cellules souches embryonnaires, que l'on trouve par exemple dans une prise de sang.
On peut manipuler en fait vos propres cellules somatiques par rapport aux germaines.
Soma, ça veut dire le corps en grec. Hein,
voilà. Donc, je reviens à votre peau, je prends votre peau, et je manipule les cellules de votre peau qui sont pas des cellules embryonnaires, que je transforme génétiquement en cellules embryonnaires. Et de ce fait, elles vont avoir la capacité...
Génétiquement seulement.
Oui.
Ouais, voilà. Ouais.
Qui vont être capables, on va greffer des gènes comme il faut à l'intérieur, qui vont être capables d'avoir cette capacité de cellules souches embryonnaires de redonner les trois feuillets dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, on peut espérer, grâce à ça, que l'on puisse effectivement traiter un certain nombre de maladies. Il y a un type de cellules qu'on appelle les cellules mésenchymateuses, qui sont transformées actuellement de façon quasiment industrielle en Australie, par une grosse entreprise, parce que ces cellules auraient des capacités pour soigner dans quelques cas de maladies du sang. Alors, en fait, le problème, c'est que... Je vais revenir à la transplantation de moelle, parce que c'est un sujet qui est quand même très, très intéressant. On développe des technologies en espérant qu'elles vont soigner, comme la greffe de moelle, ce qui est le cas, jusqu'au jour où la science vous rattrape. Il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur une forme de leucémie, qui est la leucémie myéloïde chronique. Alors, c'est une maladie qui, quand traitée par les médicaments chimiothérapiques, était terriblement agressive. Pour vous donner une idée, au bout de 3 ans, 50% des gens étaient morts. Vous voyez, 100 malades, 3 ans plus tard, il y en a 50 qui sont morts.
C'est pas le traitement qui les tuait, quand même.
Non, c'est la maladie qui les tuait.
D'accord.
Et donc, pendant un temps, la seule façon de guérir ces patients était de faire des greffes de moelle. C'est justement le prix Nobel
japonais.
Donald Thomas, côte ouest des États-Unis, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été l'un des premiers au monde à démontrer que la greffe de moelle pouvait guérir d'une leucémie, cette fameuse leucémie chronique. Jusqu'en les années 95-98, c'était le traitement de base. Puis sont arrivés 2 médicaments, et donc j'ai eu j'ai beaucoup travaillé dessus, donc l'interféron et la racitine. On a démontré dans mon centre de recherche l'intérêt de ces médicaments. Ça a un peu bousculé l'allogreffe. Puis est arrivé en 99 le fameux Glivec, l'imatinib, traitement révolutionnaire de la leucémie chronique, qui a été le médicament qui nous a fait rentrer dans une sorte de troisième millénaire de la chimiothérapie des cancers, parce que là, c'est un produit qu'on prend par la bouche et qui va agir spécifiquement au niveau de la cellule leucémique, sans toucher à vos organes, vos cheveux ne tombent pas.
Sans effet secondaire.
Ouais. Et aujourd'hui, on ne fait plus de greffe de moelle dans la leucémie chronique. Vous voyez cet exemple que je voulais vous donner, qui montre que la transplantation ça peut être utile un temps, jusqu'au jour où la connaissance que nous pouvons avoir d'une maladie atteint un tel niveau et qu'on trouve de vrais médicaments agissant vraiment sur la maladie, et ce qui fait qu'évidemment, on abandonne la greffe de moelle. Et en France, quand on regarde les courbes d'utilisation des greffes de moelle dans la leucémie chronique, ça s'est effondré. Hein. On ne fait plus ça.
Alors, ça, c'est l'exemple...
Et l'IPS, ça va être possiblement voilà, comme ça. Oui, parce que les IPS, on se lance dans les IPS dans telle et telle maladie, jusqu'au jour où notre connaissance de la maladie va aboutir à l'invention, grâce à une innovation technologique, d'un médicament spécifique qui va guérir votre maladie.
Est-ce que vous êtes optimiste pour cela ? Est-ce que vous pensez qu'on est bien parti ?
Ah oui, oui, parce que... alors, dans le domaine du cancer, c'est extraordinaire. Hein, on est en train de faire des pas de géant parce qu'on a compris comment les cellules cancéreuses se multipliaient et petit à petit, on a développé des médicaments spécifiques. Il y a un cancer qui tuait encore très facilement, le sarcome de la peau, le mélanosarcome, le mélanome. Hein, tout le monde connaît le mélanome avec ses taches noires au niveau de la peau. Il y a 10 ou 15 ans, on en mourait très facilement jusqu'au jour où on a démontré l'efficacité de médicaments qui jouent sur notre système immunitaire en le rendant performant, lequel système immunitaire arrive à détruire les cellules cancéreuses de la peau. Et aujourd'hui, les résultats sont assez exceptionnels. On ne fera plus de chimiothérapie standard dans le mélanosarcome, on va utiliser ces traitements. Vous voyez, au fur et à mesure que la science progresse, qu'on analyse mieux les cellules cancéreuses, qu'on comprend mieux leur fonctionnement, on arrive à développer des traitements spécifiques, qui sont véritables thérapeutiques ciblées, qui fait que les hypothèses de cellules souches, d'IPS, quelquefois s'éloignent.
Donc, on est rattrapé par la science, qui est une très très bonne chose, évidemment, par le progrès scientifique, qui va dans le bon sens. Pardon. Mais pour tous ceux qui ont perdu ou perdent encore des amis ou des familiers à cause du cancer, est-ce que vous pensez que cela, vous avez cité le mélanome, bon, on attrape ça notamment si on s'expose trop longtemps aux ultraviolets, c'est ça ?
Au soleil, oui.
Oui, au soleil. Mm. Bon, ben, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui passent leur temps sous les lampes ou qui s'exposent beaucoup trop au soleil. Mais est-ce qu'on peut généraliser déjà ou pas ? Non, enfin, je dirais l'ensemble des cancers. Il y en a plein, en fait, des cancers. Le cancer du foie, le cancer du pancréas, sont des cancers mortels.
Oui, bien sûr, mais on arrive aujourd'hui à quelque chose qui est tout à fait nouveau, c'est le démembrement moléculaire des cancers. Il y a 10 ans, quand on parlait de cancer du poumon, on avait deux grands types de cancers, fonction du type cellulaire, et puis bon, on appliquait de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Puis petit à petit, on a été capable de disséquer de façon précise à un niveau moléculaire la cellule du cancer du poumon. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un cancer, mais de 10, 15 différents types de cancers du poumon en fonction du type précis moléculaire au niveau génétique du développement de la cellule cancéreuse. Et on a maintenant des médicaments spécifique pour un type de cellule cancéreuse du poumon et pas pour un autre. Et on arrive à traiter avec efficacité ce type de cancer du poumon.
Mais on a 10-15 médicaments différents.
Alors non, malheureusement, l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas. Ouais. On a quelques pistes thérapeutiques pour certains types de cancer du poumon, mais malheureusement, pas pour tous. Mais ce seul exemple, celui de la leucémie myéloïde chronique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mmh. Parce que le médicament dont je vous ai parlé, il agit au niveau de la cellule, mais uniquement au niveau de la cellule cancéreuse de la moelle. Il ne va pas toucher les autres globules blancs, vos globules rouges ni vos plaquettes. Ouais. Parce qu'il pénètre dans la cellule et il bloque spécifiquement le mécanisme moléculaire du développement du cancer. Et cet exemple, qui a été celui qui nous a stupéfait dans les années 95-98, cet exemple, il est majeur, il est fondamental parce qu'il a été l'exemple qui nous a permis de dire si ça marche pour cette maladie, cette vision des choses cette explication du phénomène cancéreux et la nécessité d'aller à la thérapeutique ciblée, ça devrait être le cas pour beaucoup de cancers. Et c'est effectivement le cas. On a de plus en plus de thérapeutiques ciblées pour de plus en plus grand nombre de cellules cancéreuses.
Alors, si je puis me permettre d'hasarder une question qui révèle un peu mon côté royal socialiste, tout ça, c'est cher ou pas ?
Horriblement cher, monsieur Adeline.
Ouais.
Le fameux Glivec dont je vous parlais, alors maintenant, il est génériqué. Mais quand je traitais par chimiothérapie simple une leucémie vive chronique, ça coûtait à la Solidarité nationale 20 euros par mois. Au début, avec ce nouveau médicament, c'était 3 000 euros. Et actuellement, il y a des médicaments qui sont encore plus puissants pour ce type de maladie, c'est 5 000 euros. Je vous ai parlé du mélanome tout à l'heure. Le traitement d'un mélanome sur un an, c'est à peu près 2 000 euros avec les techniques habituelles. Aujourd'hui, c'est 200 000 euros. On a évidemment, avec ces médicaments, une prise en charge solidaire qui a de plus en plus de sens, hein, parce que les gens ne peuvent pas se payer ça, bien entendu. Et c'est bien heureux dans des pays comme le nôtre, où effectivement la solidarité internationale joue en plein, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays.
Bien sûr, bien sûr. Enfin, il y a encore de l'argent à trouver dans l'audiovisuel public, probablement. On peut refaire une petite pause musicale, parce qu'on arrive près de 15 heures. Il y a un pays qui se distingue par la qualité donc de au moins un de ses savants dans ce domaine, qui est pourtant un pays sous les bombes, c'est le Liban, et qui se distingue dans les recherches dont nous parlons depuis 14 heures. C'est ce Liban. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus ? Ils ont beaucoup de mérite quand même.
Alors, le Liban a beaucoup de mérite. Ils ont une activité scientifique et médicale qui est de niveau exceptionnel. Ils ont développé tout un laboratoire de biologie moléculaire, de cytologie. Ils ont des services de maladies du sang qui fonctionnent très bien. Ils font de la transplantation et ils ont décrit une forme de cancer du sang. Et ils sont leaders dans la prise en charge de ce type de cancer du sang. Et à Beyrouth, il y a le professeur Ali Bazarbashi, qui est un de mes amis, et qui a voulu, il a dit, moi je vais me lancer dans la fabrication des fameuses carticelles dont on parlait tout à l'heure, et qu'on hésite en France à fabriquer. Ben lui, il a dit, je vais me lancer là-dedans. Et sous les bombes, à Beyrouth, il a commencé en octobre dernier à transplanter ses premiers malades avec ses fameuses cellules génétiquement transformées. Je lui ai dit, mais Ali, comment tu fais ? Je me débrouille, parce que tu as besoin de plein de produits pour manipuler ces cellules, tu as besoin de réactifs, etc. Oui, mais on arrive à avoir, avec Air Beyrouth, on arrive à avoir des avions qui atterrissent à Beyrouth pour me procurer les produits.
Oh là 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 là.
Et j'étais assez ému.
En pleine guerre.
Oui, moi, je pense que je vais la voir tout à l'heure cet après-midi parce qu'on reste en contact l'un l'autre et c'est tout à fait remarquable.
Ouais. Et on disait que c'était réservé aux riches, toute cette recherche, cette thérapie. Et là, le Liban est loin d'être un pays
alors,
riche.
Pas forcément ces fameuses cellules transformées lymphocytaires. Comme je vous l'ai dit, le Canada s'y est mis. Alors, bon, le Canada est riche.
Ouais.
Mais par exemple, ils ont eu une activité sur ce sujet que j'ai trouvé très vertueuse. Donc, je suis un peu en lien avec eux. Et le ministre de la Santé au Canada a dit, puisque vous nous faites faire des économies substantielles en fabriquant vous-même ces cellules qui coûte finalement à peu près 70 000 dollars, alors qu'avant, vous les achetiez à l'industrie 350 000 dollars, et ben le delta de l'économie que vous nous permettez d'avoir, on vous le réinjecte dans vos recherches. Donc, c'est un cercle vertueux tout à fait intéressant.
Eh bien, dites donc, comme quoi un petit pays est capable de faire un grand pas dans ce domaine par la qualité, la seule qualité de ses scientifiques. C'est une leçon pour nous qui sommes les pays riches et à la tête des nations du monde.
Oui, alors, oui, je pense que surtout on est bloqué par manque d'audace et un poids administratif conséquent.
Ouais.
Il y a aussi autre chose, monsieur.
Oui, allez-y.
C'est que alors c'est une longue discussion que j'ai avec quelques amis que j'ai au Sénat. C'est qu'ils disent oui, mais tu te rends compte si on se lance là-dedans. On va être obligé de payer des ingénieurs, et donc il y aura un coût important. Ça ne sera pas rentable à cause du coût des aides sociales et du delta entre. Ouais, vous voyez une feuille de paye, ça pose problème. On risque de ne pas être rentable. Je pense qu'il y a aussi un problème autour de ça. C'est-à-dire, comment payer les gens à des salaires corrects qui, en fin de compte, n'épuisent pas les ressources budgétaires d'une structure qui fabriquerait ce type de médicaments.
Mmh. Bon, il y a de l'argent à trouver ailleurs, mais au dépens d'un tas de profiteurs du système actuel, on en parle de plus en plus, peut-être sous l'impulsion du président argentin, je ne sais pas. Mais enfin, je reviens toujours à ma commission, à l'oncle là. Il y a vraiment des sujets de réflexion, mais c'est en dehors de notre sujet, je ne veux pas vous mettre en difficulté. Puisque nous avons parlé du Liban en disant un pays comme le nôtre, riche, malheureusement ralenti par son administration, sa bureaucratie, sa timidité, et pourtant rempli de gens intelligents comme vous, chez Dr Guillot, comment est-ce que la France se positionne par rapport à toutes ces techniques ? Je parle donc techniquement, parce que éthiquement, je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire. La République n'a rien d'éthique. Donc, comment est-ce qu'on se positionne techniquement par rapport à tout cela ?
Alors, nous avons des équipes de recherche au niveau fondamental qui sont très remarquables, qui produisent des résultats de très haut niveau. Il y a un niveau de publication scientifique qui est évident.
Pardonnez-moi, d'où viennent-ils tous ces gens-là ? C'est le vieux schnock qui vous parle, mais... compte tenu de l'effondrement de la qualité de l'enseignement en France, comment est-ce qu'on arrive à produire des jeunes gens ou c'est que des vieux schnocks qui...
Non, c'est des jeunes, pas du tout des vieux schnocks. Il y a des jeunes talentueux qui ont la foi, la fibre scientifique et qui veulent découvrir parce qu'ils ont envie d'apporter à la société du mieux, du bien et aider l'être humain. Donc vous avez dans tout un tas de structures de recherche des gens exceptionnels. On a un niveau de publication fondamental dans le domaine du cancer qui est loin d'être mauvais, mais nous avons aussi un problème, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est que trop de scientifiques finissent par être des fonctionnaires qui ne produisent rien. Et ça, c'est un problème. Nous n'avons pas...
C'est le système CNRS, quoi. C'est
un... Oui, INSERM.
Ouais. Bon, INSERM, en l'occurrence. Ouais.
Alors, l'INSERM. Ouais. J'ai, à plusieurs reprises, expliqué qu'il y avait des structures de recherche qui n'étaient pas justifiées de pérenniser. Il faudrait avoir le courage de les fermer. Il se trouve que j'ai évalué des dossiers scientifiques ces deux, trois dernières années de scientifiques qui avaient 45, 50, 55 ans.
Qui n'ont jamais rien produit de toute leur carrière.
Qui ont produit à un moment donné.
Ouais.
Qui ont produit à un moment donné, qui sont arrivés à un niveau de directeur de recherche ou de chargé de recherche INSERM, et qui se sont arrêtés de produire. Parce que on ne fait pas de la recherche du matin jusqu'au soir pendant des années et des années productives, hein. C'est évident.
Ouais, ouais.
Évidemment, ce sont des fonctionnaires qui vont avoir une paye qui va se modifier grâce à l'indice des fonctionnaires, etc., etc., et qui sont là et qui ne font pas grand-chose. Ils n'ont pas le courage de dire « attention ». À partir d'un certain moment, il n'y a plus de production scientifique. Il faut revoir notre logiciel. Le problème, M. Adeline, c'est que notre logiciel, c'est un logiciel de fonctionnaire.
Ouais.
Et que si vous commencez à décider de fermer ou de dire ben, « maintenant, toi, on arrête de te payer », vous allez avoir éventuellement des syndicats sur le dos et des problèmes. Parce que la façon dont on fonctionne a corseté complètement la recherche médicale. Et ça, c'est vraiment un problème. Il y a un certain nombre de chercheurs, je vous ai parlé de Michel Sadelin aussi, qui, voyant qu'ils n'avaient pas les moyens pour pouvoir fonctionner, ont dit ben, « au revoir, je vais aller ailleurs ».
Oh là là, ça c'est terrible. Ah, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres ou
Alors, je ne connais pas la masse de chercheurs qui, depuis 10 à 15 ans, ont quitté le territoire français pour aller travailler à l'étranger, mais je ne sais pas si vous vous souvenez du prix Nobel de chimie Emmanuel Charpentier.
Non.
Ça ne vous dit rien.
Non.
Une brunette très gentille qui a fait une recherche à l'Institut Pasteur.
Donc Emmanuel Le.
Oui, c'est ça. Et qui est partie sur la côte ouest des États-Unis et qui est celle qui a décrit ce qu'on appelle les ciseaux moléculaires. CRISPR-Cas9, ça ne vous dit rien. Ce sont les ciseaux moléculaires. C'est une technologie qui permet de découper les gènes pour soit les modifier, soit les introduire.
Soit les recoller comme une bande magnétique.
Voilà,
j'ai entendu
absolument.
Parler de ça. Ah, oui.
Tout à fait.
Ouais.
Emmanuel, elle a été donc reçue cette année à l'Académie de médecine. Elle ne travaille plus en France depuis des années. Elle est directrice de recherche à Heidelberg en Allemagne, dans les pays nordiques, et elle a fait sa carrière en dehors de la France. Et dans son propos, j'ai bien senti qu'elle avait regretté qu'elle n'ait pu poursuivre sa carrière à l'Institut Pasteur comme elle l'eût souhaité de le pouvoir de le faire.
Qu'est-ce qui reste de l'Institut Pasteur à propos ?
Oh, je ne sais pas, parce que je n'ai pas les capacités pour analyser ce qu'ils font. Mais vous avez quand même des pépites dans ce pays. Par exemple, à l'hôpital Necker, vous avez l'Institut Imagine, qui est un institut extraordinaire qui développe beaucoup de recherches fondamentales dans les maladies rares. Vous avez dans tout un tas d'endroits en France des structures de recherche qui sont de grande classe. Il y a au niveau de l'Île-de-France un projet qui est le Paris-Saclay Center en cancérologie, qui est en train d'être monté par Éric Vivier, qui est un chercheur d'exception, qui est en train de développer ça. Moi, je lui souhaite le meilleur pour lui et qu'il puisse développer tout ça. Donc, il y a quand même dans ce pays un vivier important de grands chercheurs, mais qu'il faut savoir soutenir, accompagner dans leurs travaux, tout en essayant de faire en sorte que ceux qui produisent rien, on leur dise au revoir.
D'accord. Donc, j'allais en arriver là. Les solutions pour nettoyer un peu, c'est Milei, c'est ça, afuera. C'est-à-dire, on dit à des gens, écoutez, votre maintien à l'INSERM est conditionné quand même par votre productivité, enfin, par parce que c'est bien. J'ai connu quelqu'un qui était comme ça, qui travaillait d'ailleurs sur le sang à l'université de Poitiers, qui vous est familière, enfin du moins au CHU, et qui ne faisait rien du tout. Il était DR1, donc directeur de recherche catégorie 1, je sais pas comment, premier échelon, je sais pas comment on appelle ça. Il ne faisait rien, mais rien. C'est ce qu'ils appellent rien. Et je crois quand même qu'il était un peu obligé de patronner les travaux de recherche d'étudiants quand même. Il était un peu obligé de faire ça. Mais sinon, lui-même ne faisait aucune recherche. Il avait même installé sa propre, une association qu'il avait montée, une association d'ailleurs assez militante. Donc il n'avait, il sortait complètement de son cadre. Il était tout à fait intouchable parce qu'il était fonctionnaire. Il gagnait très bien sa vie, DR1 c'était très bien payé, et en fait il était inamovible, on ne pouvait rien faire. Alors c'est vrai de lui, c'est vrai d'un tas d'autres gens qui se sont installés dans ces administrations, et il était supposé être chercheur, il avait la blouse blanche quand même, mais il faisait rien.
J'en connais comme ça.
Voilà, hors antenne je vous donnerai son nom, il est mort maintenant, aujourd'hui, donc voilà, il est chez le bon Dieu, tant mieux pour lui, mais je vous donnerai son nom hors antenne. Et là, c'est là qu'on s'aperçoit quand même qu'il y a un vice dans notre organisation, c'est pas normal que des gens puissent prospérer comme ça et donc occuper des postes, parce que les postes ne sont pas extensibles à l'infini, sont pas, sans rien faire, et donc empêcher des jeunes gens de prendre leur place.
Alors il faut changer de logiciel, je suppose, il faut peut-être avoir une volonté politique. Alors, moi, je suis évidemment complètement en dehors de tout ça, parce que ce n'est pas mon rôle.
Bien sûr.
La seule chose, c'est que j'ai eu l'occasion d'analyser des dossiers scientifiques, qu'on me demandait si, tiens, est-ce que tu penses qu'il faut lui donner un prix ? Mais je trouvais des dossiers qui étaient inacceptables pour des prix. Et c'est comme ça que je me dis qu'il y a évidemment un souci dans ce pays. Il faut peut-être revoir notre façon de fonctionner.
Vous me disiez hors antenne qu'on a un problème de coût exorbitant de nos traitements. Parce qu'en fait, ils sont achetés à des firmes pharmaceutiques qui sont américaines, suisses ou autres. On pourrait donc faire des économies d'échelle si on était nos propres producteurs de ces traitements.
Si je reviens au CAR-T-cell qui coûte 250 000 euros la perfusion et qu'on serait capable, dans nos universités, dans nos laboratoires de recherche, d'avoir le même produit à hauteur de 70 000 euros, vous voyez donc le delta exceptionnel d'économie qu'on serait capable de faire. J'ai décrit dans un rapport la nécessité peut-être de revoir notre mode de fonctionnement en imaginant des structures avec des partenariats publics-privés qui permettraient d'aboutir à des coûts de production de médicaments à un niveau beaucoup plus faible. On serait aussi bien enclin à revoir notre mode de fonctionnement de la distribution du médicament dans les hôpitaux français, qui coûte extraordinairement cher. On devrait pouvoir délivrer le médicament à l'unité. On devrait être beaucoup plus sobre sur la façon dont on gère nos pharmacies hospitalières, qui coûtent extraordinairement cher à cause du déchet et de la nécessité de détruire un certain nombre de produits parce qu'on ne les a pas gérés de façon intelligente.
Mais c'est tout aussi vrai dans nos traitements ordinaires, quand on va chez le médecin et qu'il nous fait une ordonnance, pour une certaine époque, et s'il y a beaucoup trop de médicaments, bah c'est pareil, ils ne servent à rien, ils sont dans nos boîtes à pharmacie, et alors que dans d'autres pays, on vous donne le nombre...
À l'unité,
on vous donne le nombre précis de médicaments.
C'est bien vrai. Sûr.
Il y a beaucoup de gâchis dans ce domaine-là. C'est terrible parce que, en même temps, quand vous parliez du système américain... C'est le laboratoire qui pourrait financer la recherche universitaire pour que les choses aillent plus vite. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis par rapport à nous ?
Alors, ce qui se passe dans certaines circonstances, c'est que lorsque le laboratoire universitaire a abouti à une innovation, à ce moment-là, il est dans la capacité de contractualiser avec un industriel pour aboutir au médicament, parce que entre l'innovation, entre la découverte du produit, du médicament, de la substance et sa commercialisation, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la vallée blanche, il y a toute une période de temps pendant laquelle on va dépenser de l'argent pour analyser le produit, s'assurer de son absence de toxicité.
C'est le principe de précaution à la française.
Voilà, absolument. Ouais. Donc tout ça, c'est une période de temps pendant laquelle on ne gagne pas d'argent, mais on en dépense, et où l'industriel va accompagner éventuellement le développement du médicament. Et il y a des partenariats publics, privés, académiques, secteurs privés, industriels, qui sont des partenariats qui sont vertueux et qui permettent d'arriver quelquefois à des molécules d'intérêt qui vont ensuite vivre leur chemin, leur vie.
Bon, on va se passer un petit peu de musique avant de se dire adieu après ces questions et ces réponses passionnantes. Tout ce dont nous avons parlé met en évidence la lutte contre le cancer, qui est une des maladies les plus présentes dans nos sociétés, puisque nous avons tous perdu des parents, des amis à cause du cancer. Est-ce qu'on est capable d'estimer le nombre de cas de cancer en France ?
Alors, M. Adeline, ça c'est un sujet qui est important. Effectivement, en fait, on a une estimation. Le mot que vous avez prononcé est le bon mot. On sait qu'on a à peu près 430 000 nouveaux cas de cancer en France, mais c'est une estimation parce que nous n'avons, jusqu'à présent, nous n'avions pas de registre national des cancers. C'est un travail que j'ai fait à partir de 2019-2020, où j'ai publié un rapport, où j'ai travaillé avec le Sénat, avec la sénatrice Sonia de la Provôté, qui est une femme tout à fait remarquable, médecin. Nous avons développé une stratégie de façon à permettre à la France de se doter d'un vrai registre. Parce que, effectivement, quand on dit qu'on a à peu près 430 000 nouveaux cas, ce n'est qu'une estimation à partir de 24% du territoire où nous avons des registres régionaux qui existent. Je ne vous dis pas les territoires ultramarins où, effectivement, ce n'est pas du tout ce qui s'y passe. Et donc, dans le projet que j'ai développé, avec un rapport que j'ai écrit, j'ai dit il faut essayer de doter la France d'un registre national, ce qui nous permettrait d'avoir une couverture au moins sur la métropole. Et avec, au bout du compte, des points importants, vous allez tout de suite comprendre. Quand on connaît la réalité du nombre de nouveaux cas de cancer et où se trouvent les cancers on peut avoir une politique d'offre de soins de qualité. On est capable de dire là où il faut mettre de la radiothérapie, de l'IRM, des radios ou des chirurgiens spécialisés dans tel et tel type de cancer. Donc l'offre de soins est très contingente de la notion d'épidémie du cancer et du nombre de nouveaux cas de cancer dans différents endroits de la France et aussi permettre de développer des recherches sur l'environnement, ce qu'on appelle l'expologie, c'est-à-dire est-ce que tel et tel cas de cancer que l'on observe à Grenoble, à Lille, à Nantes ou en Auvergne ou en plein milieu du Massif central est lié à une forme d'environnement qui est toxique, pesticides, irradiation, usines Soveso, etc. Vous vous souvenez de cet industriel, de cette usine qui a brûlé dans la région lilloise, qui a évidemment relargué dans l'atmosphère tout un tas de substances toxiques. Que va devenir cet environnement, cette population? Est-ce qu'on risque de voir émerger dans cette zone des cancers de quel et quel type? Et donc, c'est une vraie problématique de santé publique, d'offre de soins. Et donc, j'ai réussi à faire voter, il y a un an et demi par le Sénat, un projet de loi modifiant le code de santé publique. J'ai porté ça à l'Assemblée nationale avec un député du Lot-et-Garonne qui s'en est occupé. Et le lundi 23 juin 2025, nous avons eu donc un vote de l'Assemblée nationale positif. Donc actuellement, il y a des travaux qui sont en cours pour mettre en place cet outil que nous n'avions pas et qui est un outil qui sera aussi très utile lorsqu'on va discuter avec nos collègues des autres pays européens. Alors chez toi, qu'est-ce qui se passe? Chez moi, qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir échanger tout un tas de données.
En dehors de ce type de recherche, Soveso, etc., est-il vrai que de part et d'autre de la Loire, sur les deux rives de la Loire, à peu près sur une largeur de 100 km, il y a plus de cancers du sein qu'ailleurs en France? J'avais entendu parler de ça à une époque où je traînais mes guêtres dans le milieu politique, j'y travaillais, disons, dans ce milieu politique, et on disait ça, de part et d'autre des rives de la Loire, pour une raison étonnante, peut-être géologique, je ne sais pas. Si ça vous paraît crédible, ça? Vraiment, c'est quelque chose de tout à fait anecdotique, mais pourquoi pas?
Alors, ce sont des anecdotes qui poussent ensuite à faire des analyses évidemment approfondies, parce que quelquefois, vous avez une concentration de cas de cancer qui, en fait, est due au hasard. C'est que simplement, vous avez des familles qui ont des profils génétiques qui les rendent susceptibles à tel type de cancer. Et ce sont ce qu'on appelle cluster, c'est le terme qui est souvent utilisé par les journalistes. Et c'est en fait une...
Je vous dispense de mettre un franc dans le petit cochon, mais vous savez que normalement, on n'est pas le droit de dire des mots anglais à Radio Courtoisie, c'est la radio de la francophonie.
J'ai dit quelque chose.
Cluster, vous avez dit cluster.
Alors, donc, regroupement.
Regroupement, merci.
Regroupement de cas dû en fait au hasard, mais il faut toujours se méfier du hasard. Il y a, récemment, il y a une de mes amies, Jacqueline Clavel, qui a fait un travail sur les leucémies et sur la proximité des familles avec des zones de vignes. Et elle a montré que lorsque la concentration des pieds de vigne est élevée, la probabilité pour que les enfants qui vivent dans des maisons au contact de ces vignes développent des leucémies est élevée.
Incroyable.
Voilà. Et donc ça, c'est probablement...
Elle arrive à démontrer comment ou simplement...
Par des analyses de géolocalisation et de croiser des informations sur la quantité de pieds de vigne, les travaux qui sont faits dans la vigne et le développement de certaines maladies dans des habitations au contact. Donc, ce qui veut dire que l'enregistrement des cas sur l'ensemble du territoire, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, et l'expologie, et le risque que certaines maladies puissent se développer au contact d'un environnement possiblement toxique, c'est quelque chose qui est très important.
Merci beaucoup, docteur Guillot, pour nous avoir éclairé de vos lumières. On a écouté avec grand intérêt votre exposé. On va se passer un peu de musique avant la fin de l'émission, ou alors autre chose, je ne sais pas ce que souhaite la régie. Merci, docteur.
Merci, monsieur Adeline.
venez d'entendre, le livre journal d'Yves-Marie Adeline, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 18 mai 2026 de 14h à 15h30 et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.